Alors, grand bonjour à vous tous. Alors, si vous suivez l'actualité, hier, vous avez vu la cérémonie, si vous l'avez regardée, d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris, 100 ans après la dernière édition, pile poil 100 ans. Et ces Jeux sont officiellement appelés les Jeux de la 33e Olympiade. Alors, 33e, en se référant au début des Jeux Olympiques modernes, je vais dire JO, parce que ça fait trop long de dire Jeux Olympiques tout le long du sermon. Donc, des 33e, en se référant au début des JO modernes, en 1896, avec une manifestation tous les 4 ans. Vous pouvez faire le calcul, je vais vérifier. Alors, il faut savoir, c'est quand même quelque chose d'intéressant, l'histoire des JO. Les JO modernes que nous connaissons ont débuté dans la tête d'un jeune Français, le baron Pierre de Coubertin, en 1889. Il a eu l'idée de rétablir, on dit bien rétablir, les Jeux Olympiques, les JO, dont la célébration avait été abolie en 394 de notre ère, et dont la disparition semblait alors définitive. Alors, il faut savoir que le premier concours olympique connu remonte à 776 avant Jésus-Christ. Et pour vous situer sur le plan biblique, c'est durant le règne du roi Ozias, qui était lui-même contemporain des prophètes Isaïe, Osée et Amos. Donc vous voyez, ça remonte. Et donc, par la suite, après 776, les Jeux ont été organisés tous les 4 ans, et cela pendant 1200 ans, jusqu'en 394 après Jésus-Christ, date à laquelle ils ont été abolis par l'empereur romain Théodose Ier, car ces Jeux étant créés au début dans le cadre d'un festival religieux en l'honneur du Zeus Olympien, donc des dieux de l'Olympe et tout. Donc, ils ont été accusés de diffuser le paganisme. Rien que ça. Et donc, ils ne seront rétablis que 1502 ans plus tard, en Grèce, donc en 1896, après 7 ans de dur labeur de la part de Pierre de Coubertin pour arriver à avoir ces Jeux que nous connaissons maintenant. Les JO ont donc eu lieu pendant une bonne partie de l'Ancien Testament et durant la totalité du Nouveau Testament. Et il est intéressant de noter que les Jeux de la Grèce antique, précurseurs des Jeux Olympiques modernes, sont mentionnés dans la Bible. À l'époque de l'Église primitive, les Jeux Olympiques étaient un événement important et célèbre qui se déroulait tous les 4 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Et l'apôtre Paul s'est servi de ces Jeux que la plupart des gens de l'époque connaissaient pour expliquer des principes spirituels essentiels, les mêmes principes de l'époque qui sont encore valables pour nous aujourd'hui. Donc, nous pouvons tirer de nombreuses leçons spirituelles des JO mentionnées dans la Bible et, si vous voulez un titre, nos Olympiades spirituelles. Nos Olympiades spirituelles. Alors, lors des 13 premières Olympiades, la seule épreuve consistait en une course à pied d'environ 180 mètres. Ceux qui ont suivi l'étude de M. Matt, un stade, c'était 185 mètres à peu près. C'était mardi dernier, qui nous en parlait. Donc, c'était la seule et unique épreuve. Et les Jeux ne duraient qu'une journée. Les participants étant que des hommes, et ils couraient, tenez-vous bien, complètement dévêtus. Progressivement, d'autres épreuves, telles que la course de chars, la boxe, la lutte, le disque et le javelot, ont été ajoutées et la durée des Jeux s'est allongée. Les Jeux occupait une place si importante dans cette civilisation, dans la vie des Grecs, que le temps était mesuré par l'intervalle de 4 ans qui les séparait. Donc, l'Olympiade, c'est la durée de 4 ans, et l'Olympiade, c'est aussi les Jeux, les diverses disciplines des Jeux. Et pendant 1200 ans, le temps a été compté en Olympiade. Et c'est intéressant de voir que là, on parle de la 33e Olympiade de l'ère moderne. Avant même donc qu'on utilise les années et les mois, on comptait le temps en Olympiade à l'époque. Pour en venir encore à ces Jeux, le plus grand honneur que pouvait recevoir un Grec était de gagner ce simple rameau d'olivier sauvage offert au vainqueur des Jeux. Et ils étaient vraiment populaires. Les rois concouraient aux côtés de Monsieur Tout-le-Monde, des gens du peuple. Et on rapporte même que l'empereur Néron, non sans tricher, il y a des articles intéressants dessus, recherchait les honneurs olympiques. Donc, avec le temps, on n'a rien inventé, hein. Avec le temps, 4 compétitions nationales similaires se sont développées dans différentes régions de la Grèce. Il y avait les Jeux Olympiques, donc, les Jeux Isthmiques, I-S-T-H-M-I-Q-U-E-S, les Jeux Néméens et les Jeux Pythiques. C'était dans diverses régions de la Grèce antique. Et ce qui est intéressant, c'est que les Jeux Isthmiques se déroulaient tous les 2 ans à Corinthe. Et les membres de l'Église qui vivaient à l'époque de Paul les connaissaient sans aucun doute. Et en faisant donc référence à ces Jeux, l'apôtre Paul a donc mis en évidence des leçons spirituelles frappantes pour les Corinthiens. Et pour nous aussi. Et lorsque nous comprenons le contexte, l'arrière-plan des passages que nous allons voir aujourd'hui, ces derniers prennent tout leur sens. Le premier de ces passages, c'est dans 1 Corinthiens 9. Rendez-vous à 1 Corinthiens 9, au verset 24. « Ne savez-vous pas, nous dit Paul, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul homme remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Dans d'autres versions, vous verrez, une couronne impérissable dans la crampon où la seconde 21 nous donne une couronne indestructible. Verset 26, il dit, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et on va passer un bon petit moment à décortiquer ce passage. Un seul remporte le prix, il nous dit Paul. Et au jeu de l'époque, effectivement, et jusqu'à maintenant, nous avons une seule médaille d'or. Et à l'époque, une seule personne, le vainqueur, recevait donc sa palme. Et vous avez beau faire tout ce que vous voulez, une médaille d'argent ou une médaille de bronze ne remplacera jamais l'or. Ça, c'est clair. Après, on oublie qui a eu le bronze, mais on se souvient toujours de qui a eu l'or. Et il nous dit « courez de manière à le remporter ». Donc Paul ici va comparer notre vie chrétienne à une course et il nous exhorte à courir avec ardeur, mais aussi avec la certitude réconfortante que bien que une seule personne dans une course olympique puisse gagner, tous ceux qui courent avec succès dans la course chrétienne peuvent gagner. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. C'est une famille qui participe à cette course. Et Paul, il va le confirmer dans 2 Timothée 4 au verset 8. 2 Timothée 4 verset 8. Quand il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée, On reviendra tout à l'heure sur cette couronne. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et là, il rajoute ce que j'appelle cette certitude réconfortante. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, il n'y a pas qu'un vainqueur. Il y a une famille, la famille de Dieu, qui est en train de courir pour vaincre. Le verset 25, il dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinent. Tous les athlètes, comme Paul nous le montre, qui réussissent au jeu, on peut le mettre à l'imparfait, donc tout cela devait faire preuve d'une autodiscipline rigoureuse, tout comme nos jeux modernes. C'est des phases éliminatoires, c'est pas n'importe qui est inscrit dans un petit club de course qui va se dire, bon, mais je vais au JO l'année, aux prochaines Olympiades. Ça marche pas comme ça. Il y a des temps à respecter, il y a des chronos à faire. Donc, vous voyez, c'est un dur labeur. Et ceux qui réussiront cette année, en 2024, seront des hommes et des femmes qui ont sacrifié de nombreux plaisirs pour consacrer d'innombrables heures d'entraînement épuisant, de sueur et de labeur en vue de leur épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'original grec, quand il dit « tous ceux qui combattent », le mot « combattent », au verset 25, c'est « agonizomenos ». Agonizomenos, vous avez compris que ça veut dire « agonie ». Si vous savez ce que c'est que l'agonie, ça précède la mort. Donc, voyez à quel niveau il fallait aller donc dans ce combat, dans cet entraînement. Pourtant, ces athlètes ont traversé et traversent encore toutes ces épreuves dans le seul but d'obtenir une couronne corruptible, comme il nous le dit. Périssable, dans d'autres versions. On l'a dit déjà, la couronne du vainqueur au JO était composée de feuilles d'olive. Une fois que vous avez coupé le rameau, il n'est plus relié au tronc, il commence à se faner, à flétrir, une fois qu'il est cueilli. Et les gens se battaient, ils s'entraînaient dur pendant 4 ans pour une broche d'olivier que vous pouvez avoir dans votre jardin. Bon, vous prenez une broche d'olivier dans votre jardin et c'est... Non, là il y avait quand même tout le symbole que représentait cette victoire. Alors, pour nous, combien devrions-nous, en tant que chrétiens, nous discipliner spirituellement et nous efforcer d'obtenir notre prix qui est, comme Paul le dit, on l'a vu dans 2 Timothée 4:8, une couronne de justice. Et cette couronne de justice, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5 au verset 4, notez 1 Pierre 5 au verset 4, nous dit qu'elle est incorruptible ou inflétrissable. Et là, il nous dit, 1 Pierre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible ou inflétrissable dans la darby de la gloire. » Donc, on commence à comprendre, on le sait déjà, mais à travers ces jeux qui sont d'actualité, que la vie d'un chrétien n'est pas une simple question de se reposer sur ses lauriers, sans jeu de mots, ou d'avancer sans effort en se contentant simplement de croire en Christ et de penser qu'on est déjà sauvé. Ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'au contraire, vivre à la manière de Dieu, c'est une lutte constante. C'est un effort continu pour rechercher Dieu et être proche de lui. C'est un des objectifs du jeûne, comme ça nous a été rappelé par M. Winnell dans ses commentaires. Donc, c'est nous approcher de Dieu, et ça dans un monde vraiment qui est loin de tout cela. Le monde est de plus en plus matérialiste et hostile aux voies divines. Donc c'est quelque chose que nous devons rechercher avec beaucoup, beaucoup de zèle et d'énergie, exactement comme un athlète qui s'entraîne. Quelque chose pour lequel nous devons, comme dit Jude dans 1 verset 3 ou dans Jude verset 3 tout court, où il nous dit, je vais le lire, Jude verset 3. Il dit, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Et la version King James rajoute à combattre intensément. Et elle n'est pas la seule, la Reina Valera en espagnol dit à combattre ardiamente, vraiment avec ardeur. Donc c'est pas un petit combat du matin, on ouvre un œil et puis la journée se passe. C'est un travail vraiment ardu. Nous devons faire preuve de détermination spirituelle, tout comme un athlète de classe olympique. Et comme vous l'avez supposé, je vais vous parler de quelques athlètes qui ont marqué les Jeux, même les Jeux modernes. Avez-vous entendu parler d'Eric Liddell? Peut-être pas. Il concourait en 1924 à Paris, il y a exactement 100 ans. Et si vous avez vu le film Les Chariots de Feu, vous avez son histoire. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. C'est un film formidable qui est sorti en 81 et qui a été récompensé par plusieurs Oscars. Et je pense même, y compris pour la musique, vraiment quelque chose, c'est la musique d'Evangelis et avec des images, des ralentis. Vraiment un film à voir. Si vous avez l'occasion de le voir dans une salle, je ne sais pas si des chaînes ont programmé pour les 100 ans ce film. Je n'ai pas pensé à faire la recherche, mais sinon je pense qu'on peut le trouver sur Internet, le louer ou l'acheter. Mais c'est vraiment un film formidable. Et il raconte donc ce film l'histoire d'Eric Liddell, dont je vais vous dépeindre le portrait. Donc ce monsieur, donc ses fortes convictions chrétiennes l'ont amené à considérer le dimanche comme le sabbat. Autrement dit, un jour mis à part par Dieu pour le repos, la réflexion et l'adoration plutôt que pour les loisirs et le travail. Et Eric Liddell prenait cela très au sérieux et refusait de concourir le dimanche. Chapeau. Aux Jeux Olympiques de 1924, le programme d'athlétisme est publié plusieurs mois avant les JO eux-mêmes, et il apprend Liddell que les épreuves éliminatoires de son épreuve de prédilection, le 100 mètres, c'était un sprinter ce monsieur, ah ben, ces épreuves éliminatoires sont programmées un dimanche. Et bien sûr, il va faire des mains et des pieds pour faire changer le calendrier, mais en vain. Il va finir par se retirer de l'épreuve. Il renonce à la compétition, à la grande surprise de ses fans. Et tous ceux qui l'ont encensé, parce qu'il n'est pas arrivé à ce niveau sans être connu avant, tous ceux qui l'ont encensé par le passé le traitent maintenant de fou, voire de traître, traître à la nation. Et il va subir de grosses pressions pour changer d'avis, mais il va tenir bon. Alors, par chance, entre guillemets, l'un des concurrents du 400 mètres déclare forfait et cette course doit se dérouler en semaine. Liddell peut donc prendre sa place. Mais 400 mètres, ce n'est pas un 100 mètres. 400 mètres, de tous ceux qui ont fait de l'athlétisme ou qui suivent, c'est vraiment la course qui tue, on va dire. Elle est à la limite de la vitesse, du sprint 100, 200, etc. et du demi-fond qui commence à 600 mètres. Et vraiment, c'est une course très, très dure. Et lui, en tant que sprinter, il s'est entraîné pour son sprint sur 100 mètres. Il aura quand même un peu de temps pour se mettre aux 400 mètres. Mais ce n'est pas vraiment sa distance, ce n'est pas sa spécialité. Malgré cela, il franchit la ligne d'arrivée en 47 secondes 6 dixièmes à l'époque, c'était des dixièmes hein, il y a 100 ans, et établit un nouveau record. Il remporte une médaille d'or sans avoir trahi ses convictions. Il était déterminé à plaire à Dieu. Il connaissait pas le sabbat ou il connaissait le dimanche comme jour de repos, de jour du Seigneur pour lui. Il était déterminé à plaire à Dieu en ne se livrant pas à ses propres occupations, comme nous dit Ésaïe. Pour l'idole, en tant que compétiteur acharné, une médaille d'or olympique n'était pas le prix le plus important de sa vie. Plus tard, il déclarera « Ce fut une expérience merveilleuse de participer aux Jeux olympiques et de ramener une médaille d'or à la maison. Mais depuis que je suis jeune, j'ai les yeux rivés sur un autre prix. Voyez-vous, chacun d'entre nous participe à une course plus importante que toutes celles que j'ai menées à Paris. Et cette course s'achève lorsque Dieu distribue les médailles. » C'est tellement beau. Et beaucoup de gens se moquèrent de la décision de Lidl de s'abstenir de courir le dimanche, mais peu de gens ont remarqué le petit papier que lui tendit un membre de l'équipe américaine. Alors d'après le film, en tout cas, ce serait Jackson Scholes qui, lui, cette même année, gagna la médaille d'or aux 200 mètres. Et donc Scholes, dans le film, on montre qu'il remet ce petit papier et Lidl qui l'ouvre et qui y voit Monsieur Lidl. Il est dit dans l'Ancien Testament « J'honorerai ceux qui m'honorent » en citant 1 Samuel 2, verset 30. Et dans ce film qui est vraiment magnifique, dans la dernière ligne droite, le 400 mètres, c'est le tour complet de l'anneau autour du stade, là. Dans la dernière ligne droite des 100 mètres, ils font bien sûr avec un super ralenti et il avait un style très particulier dans sa course qui n'était pas des plus académiques, mais il gagnait. C'est ça l'essentiel. Alors, il y a cette pensée dans la tête de Lidl qu'ils ont mis en voix off dans le film en gros plan. Sur son buste, sa tête, où il dit « Je crois que Dieu m'a créé pour un but précis, mais il m'a aussi créé pour être rapide. Et quand je cours, je ressens son plaisir. » Ils se sont appliqués à mettre de l'émotion dans le film, mais je pense que ça reflétait la réalité de ce personnage. La question « Ressentons-nous ?» le plaisir de Dieu dans cette course que nous courons, que Paul nous a dit que nous courons, dans notre course chrétienne. Ben, tout comme moi, on n'est peut-être pas des coureurs ou pas du tout intéressés par la course, mais nous sommes des coureurs dans la vie. Ça a été clairement montré par l'apôtre Paul. Et maintenant, nous avons même les Jeux paralympiques qui sont arrivés aux JO de Rome, en 1960, où il y a des courses en fauteuil roulant. Nous devons courir notre course comme Eric Lidl a couru la sienne, à la fois la course de la vie, mais plus particulièrement la course spirituelle dans laquelle nous nous sommes engagés. Revenons à 1 Corinthiens 9, au verset 26. Moi donc, c'est une conclusion, j'aime bien le donc là. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Et dans la version Bible en français courant, ce même passage nous dit, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Notre version dit rivé sur le but. C'est pourquoi je suis semblable, toujours dans la Bible en français courant, je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. N'oubliez pas qu'on a dit qu'il y avait que la course au début, que la boxe, la lutte, les courses de chars ont été rajoutées après. Et notamment, donc, la boxe, Paul en fait allusion à la boxe des Jeux, des JO de leur époque. Et il dit qu'il ne se bat pas comme un boxeur amateur. Devant Cassius Clay, même ceux qui étaient déjà des boxeurs confirmés, il y en a un qui n'a pas tenu 20 secondes, je crois. Donc, c'était le jeu de pied, et puis, pam, terminé, trou noir, KO. Donc, il ne se bat pas comme un boxeur amateur battant l'air sans but. Nous connaissons le but de notre vie. Nous savons que notre objectif est de rentrer dans le royaume de Dieu. Nous devons garder les yeux fixés, les yeux rivés sur cet objectif et ne jamais nous en détourner. Et le verset 27, toujours dans 1 Corinthiens 9, Paul continue « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, réprouvé dans d'autres versions, ou la seconde 21, de peur d'être disqualifié. » Et on reviendra sur le terme tout à l'heure. Et le terme qu'il emploie pour en grec pour « traiter durement mon corps » signifie littéralement « se faire un œil au beurre noir ». Ce que vous pensez, on a tous peut-être eu un œil au beurre noir accidentellement sur un terrain de sport ou bien derrière une porte. Essayez de le faire volontairement, je suis sûr que ça n'ira pas. Je ne pense pas qu'on aura le réflexe de s'arrêter avant de se cogner volontairement pour avoir un œil au beurre noir. Donc, Paul montre la nécessité d'une autodiscipline rigoureuse afin de s'assurer qu'il resterait sur la bonne voie dans sa vie spirituelle personnelle. Parce que, même si j'ai parlé de famille, le salut reste individuel. Il faut bien comprendre cela. Ah oui, je connais bien le pasteur, je connais bien tel. Non, c'est individuel, c'est personnel. Même si nous courons ensemble, main dans la main. Et là, une fois de plus, nous constatons qu'une attitude insouciante, laxiste, zen, entre guillemets, et complaisante ne nous permettra pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu veut que nous soyons vraiment sérieux et appliqués, motivés, lorsque nous suivons son mode de vie. Il veut nous voir nous efforcer de construire un caractère spirituel solide et résistant. Paul dit dans cette constatation de la nécessité de l'autodiscipline stricte, il dit « De peur, après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même disqualifié. » À la fin du verset 27. Et ce mot « avoir prêché » fait référence à cette fonction de « héros », « H-E-R-A-U-T » lors des Jeux de la Grèce antique. Donc, le héros avait pour tâche de proclamer les règles et de convoquer les concurrents. Vous voyez, un style de Léon Zitronoué, oyez bonne chance, voilà les règles de telle course. Oyez, messieurs, dames et tout. Donc, il avait aussi, il présentait les concurrents et il annonçait les règles. Et c'est ce qu'il dit Paul, après avoir été donc le héros, en quelque sorte, j'ai peur d'être moi-même disqualifié, en faisant référence à une personne que les juges, parce qu'il y a toujours des juges dans les épreuves, rejetteraient comme n'ayant pas mérité le prix. Donc, on peut être disqualifié, et il fait aussi allusion à cela. Notez simplement Galates 2 au verset 2. C'est pas le contexte, mais il dit « afin de ne pas courir ou avoir couru en vain, ou encore inutilement, ou pour rien, dans d'autres versions. » Et il y a aussi Philippiens 2,16 que vous pouvez noter, où il parle de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Parce que c'est ton travail, la préparation athlétique. Et ça, on l'a aussi par l'apôtre Jean dans Apocalypse 3 au verset 11, où chacun de nous, membres de l'église de l'ère de Philadelphie, nous recevons cet avertissement, Apocalypse 3, 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » On a surtout parlé, on va encore surtout parler de l'apôtre Paul. Allez à Hébreux 12. Dans Hébreux 12, ce passage va dépeindre un autre aspect des Jeux de la Grèce antique, afin de nous apporter des leçons spirituelles plus vivantes. À partir du verset 1, je vous rappelle que Hébreux 12 vient tout de suite après le chapitre des héros de la foi. Il dit, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Donc Paul nous parle d'avoir une si grande nuée de témoins. Nous savons qu'il s'agit de ceux qui sont nommés, notamment dans Hébreux 11. Mais il y a aussi cette allusion aux arènes ou aux stades maintenant, qui sont remplis de spectateurs qui encouragent les participants à réussir, à tel point que beaucoup d'entre eux, avant de se concentrer, par exemple notamment le saut en longueur et tout cela, toutes les épreuves quasi individuelles, vous voyez qu'ils, des fois, ils réclament des claps du public et ça fait comme une vibration qui les porte, qui les pousse. Et donc, ce sont en quelque sorte les témoins de leurs exploits. Donc, dans notre effort chrétien, nous devons et nous pouvons regarder les exemples remarquables des hommes et des femmes de foi, des héros, des champions qui nous ont précédés, tels que ceux qui sont catalogués dans le chapitre 11 d'Hébreux, le chapitre de la foi. Méditez donc ces exemples et les gardez à l'esprit pendant que nous courons notre course spirituelle, notre course chrétienne devrait nous stimuler. Nous avons, mais cet ouvrage est resté en anglais, l'autobiographie de M. Armstrong, et vous avez entendu parler récemment de l'autobiographie de M. Meredith, normalement qui devra être traduite. Et ça aussi, c'est un pan de l'histoire de l'Église. Et ça devrait vraiment nous encourager. Donc, pensez aux traducteurs, pensez à tout ce travail qui doit se faire derrière cet ouvrage de l'autobiographie de M. Meredith. Et pour ceux qui sont anglophiles, on peut retrouver facilement l'autobiographie de M. Armstrong sur Internet. Nous avons donc parlé d'Eric Liddell. Nous avons vu sa détermination à plaire à Dieu. Mais il y a un autre exemple vraiment remarquable de motivation, c'est une jeune femme à l'époque, Wilma Rudolph. Je ne sais pas si ça vous dit. On l'appelait plus souvent Wilma la gazelle, mais il y en a qui sont trop jeunes pour cela. Elle n'avait que 5 ans quand elle courait à Rome. C'est quand même une histoire très, très, très prenante. Cette jeune femme est la 20e d'une famille de 22 enfants. D'accord ? Elle est née prématurée dans le ghetto de Bethléem à Clarksville, dans le Tennessee, état ségrégationniste du sud des États-Unis. Et le père est porteur de bagages à la gare, la mère femme de chambre. 22 enfants, des conditions très difficiles, noirs dans un pays ou dans une région ségrégationniste. Mais en plus de ça, elle a des gros problèmes de santé. Double pneumonie, scarlatine et surtout une poliomyélite qui devrait la priver de l'usage normal de sa jambe gauche. Et donc, dans les conditions que nous avons décrites, elle ne peut être soignée dans l'hôpital réservé aux Blancs. Et chaque semaine, sa mère l'emmenait munie d'une prothèse métallique à la jambe gauche, deux fois par semaine à l'hôpital, pour recevoir des soins. En plus de ça, maman a appris aux aînés de la famille, pour 22, il y en a, hein? D'accord. Aux aînés de la famille à lui faire ses 4 massages quotidiens. Ceux qui sortent de rééducation, suivez-moi, savent de quoi il s'agit des fois. 4 massages quotidiens nécessaires à son traitement. Et là, c'est important. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais la présence de sa famille dans sa vie est importante. Grâce aux soins que lui prodigue sa famille, elle parvient à l'âge de 11 ans seulement à retirer ses chaussures orthopédiques et à marcher normalement. Elle se lance alors dans la pratique sportive pour endurcir sa jambe et combler ses années de frustration, nous dit-on. Vous voyez nos petits bambins là, dès que ça a 12 mois ou même avant, ça galope partout. Donc imaginez une petite fille avec déjà la maison c'était une congrégation. Voilà. Donc des enfants de tout âge qui galopent de partout et elle frustrée, elle va donc faire du sport pour durcir sa jambe et combler ses années de frustration à regarder ses frères et sœurs. Elle va rejoindre l'équipe locale de basket et va se retrouver sélectionnée dans l'équipe de son collège. Et tenez-vous bien, un petit clin d'œil à notre basketteuse du coin. 805 points en 25 matchs. Autrement dit, une moyenne de 32 points par match. Pour les basketteurs aussi de la salle, vous savez que c'est quand même quelque chose de formidable. Et elle est vite repérée, donc pour faire ça, il faut savoir courir vite, à tel point qu'un de ses surnoms, c'était Moustique. C'est son entraîneur de basket qui l'appelait Moustique. Tu es partout, et surtout sous le panier pour marquer des points. Donc, elle est vite sélectionnée et réorientée vers la course à pied. Et bien, cette jeune femme qui a commencé sa vie avec tant de difficultés va être triple médaille d'or au JO de Rome en 1960. 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres. Et le 4 fois 100 mètres, c'est encore quelque chose d'épique parce que elle est la dernière à courir et le passage de relais de la troisième à la quatrième se passe mal. Elle a 2 mètres de retard sur les autres concurrentes et on l'appelait pas la gazelle pour rien. Elle a gagné donc. Et vraiment, cette motivation de cette jeune fille qui passe de la poliomyélite à être la femme la plus rapide du monde, puisqu'elle avait eu des records personnels, des records de vitesse. Elle a été intronisée au Temple de la Renommée aux USA en 1974. Elle est morte en 1994 d'un cancer du cerveau. Mais en 2014, elle a été elle aussi intronisée au Temple de la Renommée de l'athlétisme international. Donc, vous voyez le travail de motivation et de vraiment détermination pour réussir. Quand on a des exemples comme ça, on comprend qu'un athlète olympique ne peut pas se permettre de porter de poids inutile. On a dit tout à l'heure que les premiers athlètes couraient complètement dévêtus. Vous n'irez pas courir 100 mètres avec parka, moumoute, tout ce que vous voulez. Vous allez courir de façon la plus légère possible. Parce que vos vêtements, s'ils sont trop lourds, ils vont vous ralentir, ils vont vous gêner. Et c'est ce que Paul veut nous souligner dans Hébreux 12 au verset 1. Quand il dit « rejetons tout fardeau et le péché ». Il fait la liaison entre le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et la Bible en français courant nous dit courons résolument la course qui nous est proposée. Et on comprend à travers Paul que le péché, c'est un fardeau qui nous retient et qui nous empêche de faire de notre mieux dans notre vie chrétienne, dans nos efforts chrétiens. Paul n'a pas inventé l'eau chaude. Allez dans Psaume 38. Psaume 38. Et c'est là, c'est David qui parle. Au verset 5. Il dit, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. C'est vraiment une belle image. Et son fils Salomon, dans Proverbe 5, au verset 22, dans un contexte très particulier de fidélité conjugale, Proverbe 5, verset 22, il nous dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Alors, Sterval nous donne ce passage de Proverbe 5 au verset 22. Le méchant sera pris dans ses iniquités et il sera retenu dans les cordes de son péché. Non seulement il est pris, mais il est retenu. C'est important de comprendre l'influence du péché dans nos vies. Et les péchés, quels qu'ils soient, en faisant un petit clin d'œil au pain sans levain, ils doivent être découverts et éliminés. Et c'est ça, en quelque sorte, le but de la fête des pains sans levain, nous rappeler cette obligation que nous avons de vaincre, de lutter contre le péché. Et ça, ce faisant, nous pourrons avancer énergiquement dans notre course vers le royaume de Dieu. Toujours dans Hébreux 12, j'ai oublié de vous dire de garder le doigt dedans. Hébreux 12 au verset 2, où il disait, alors le temps de le reprendre, qu'il garde les yeux fixés sur le but. Voilà, verset 2. Voilà, au verset 2. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Vraiment, ce passage nous montre l'importance d'avoir un but à atteindre dans nos vies, exactement comme un concurrent olympique. Vous voyez tous, là, quand ils se mettent en position de départ, ils ont au moment du prêt la vision de ce qu'ils ont à courir, de la ligne finale là-bas. Et là, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, le 20 avril 2024, il y a un jeune Suédois de 24 ans, Armand Duplantis. Alors, si vous aimez un sport, c'est le saut à la perche. Ça me fascine. Il a battu son propre record, il n'arrête pas, et c'est vraiment des petits records de centimètres chaque fois. Mais là, il a battu son record et il a sauté 2,24 m avec une perche. Et vraiment, ce qui est intéressant avec la technologie moderne, c'est de revoir ces images au ralenti. Si vous regardez sur YouTube, vous allez dans les paramètres, vous choisissez la vitesse de lecture. Et juste en partant comme ça, il lève les yeux. On ne sait pas si c'est pour une prière ou si c'est pour regarder le bout de sa perche qui fait à peu près 5 mètres. Il y a la course et puis la perche qui se plie, là, un peu comme le micro. Et il passe au-dessus de la barre, mais avec vraiment de la marge. Et en retombant de l'autre côté, en s'enroulant autour de la barre, sans la toucher, mais il avait facilement 20 cm de marge, il a les yeux fixés sur la barre, en la regardant, et puis quelques, même pas dixième, millième de seconde après, il a ce geste de victoire, mais quelque chose de formidable. Là, je t'ai eu. Ça. Et là, il y a le drapeau blanc qui valide l'essai, mais il reste pas sur le tapis. Hein. Je sais pas si les règles ont changé, mais à l'époque, fallait sortir rapidement du sautoir, parce que si la barre venait à tomber, vous aviez pas d'essai. Tandis que si vous sortez du tapis et que la barre tombe, vous avez votre essai. Donc, il y a encore un juge avec un drapeau blanc qui va valider le saut. Mais vraiment un saut fantastique. Et il y a même pas quatre, il y a même 3 mois de cela. C'est vraiment quelque chose. Et ce même jeune homme, 24 ans, qui n'arrête pas de grimper. On verra ce qu'il va faire au JO cette année. Mais là, ce but pour nous, c'est, comme dit Paul, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, donc il la suscite et l'amène à la perfection. Et vous voyez pourquoi on parle de la foi du Christ en nous. c'est lui qui va l'amener à la perfection. Le Christ était là au début de notre course individuelle, quand on se mettait sur les starting blocks. Après l'appel, là, on s'aligne, on appelle les concurrents. Il était au départ de notre course, il nous a montré le chemin à suivre et on sait qu'il sera là à l'arrivée, remettant les prix aux vainqueurs. Lidl l'a dit tout à l'heure, quand Dieu remet les médailles. Et là, il y aura la phrase aussi, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la joie de ton maître. » Et le verset 3 nous donne quand même niveau. Toujours en parlant du Christ, il dit « Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Et le verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » N'oubliez pas qu'on était en train de parler du fardeau du péché. Le Christ a lutté jusqu'au sang, en nous laissant un exemple. D'autres aussi ont perdu leur vie. Dans la liste des héros, il y en a qui ont été sciés. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant à relire, la liste des héros de la foi de Hébreux 11. Donc nous devrions penser, et ça aussi nous le commémorons au moment de la Pâque, au sacrifice du Christ. Parce qu'il a eu à lutter contre le péché, il a été tenté, comme nous dit Paul aussi, en toute chose, sans jamais pécher. Afin que nous ne soyons pas là et faibles dans la compétition, et elle est épuisante. Si on regarde bien, c'est, comme on dirait chez nous, c'est pas ridichesse botable. Autrement dit, c'est pas juste s'asseoir autour d'une table et manger. Paul va nous donner une autre description vivante de l'effort intense que nous devons déployer pour atteindre l'objectif du royaume de Dieu. Allez dans Philippiens, s'il vous plaît, Philippiens 3. Philippiens 3 au verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La Darby nous le dit, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu. Vocation et appel, c'est la même chose. Si Dieu nous appelle, c'est que nous sommes capables d'arriver en bout de ligne. Nous sommes capables de franchir les 6 mètres et quelques, si un jour nous avons à le faire. Pourquoi pas? Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Et Paul va faire souvent aussi référence au JO dans ses épîtres à Timothée. 1 Timothée 4, on va passer quelques passages en revue là. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez, c'est encore cette allusion au jeu. Et quand il parle d'exercice, le mot grec c'est gymnase, G-U-M-N-A-Z-E, qui fait référence aux exercices, à l'entraînement, aux exercices de gymnastique utilisés par les Grecs à l'époque de Paul pour se préparer aux Jeux. On n'arrive pas comme ça sur un terrain pour concourir, on se prépare. Et il fait allusion à cela, quand il dit « exerce-toi à la piété ». 1 Timothée 6, 2 chapitres plus loin, une nouvelle référence. On a dit que la boxe était entrée dans les jeux, au verset 12. Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Là, on retrouve encore cette allusion au jeu, les tribunes rempli de gens, en quelque sorte, mais surtout de saisir la vie éternelle. Et le combat dont il s'agit ici, c'est encore un combat de boxe qui avait donc fait son apparition dans les jeux grecs de l'époque. Une autre allusion, on va la trouver dans 2 Timothée 2 au verset 5. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je prends le verset 4 pour voir le contexte, même s'il n'est pas spécialement sportif. Mais il dit, il n'est pas de soldat au verset 4, 2 Timothée 2 verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, pour en venir au JO, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. La Bible nous parle de règles, de lois, de préceptes. C'est précepte sur précepte, règle sur règle. Et on disait tout à l'heure aussi que le héros, H-E-R-A-U-T, était là pour proclamer les règles aux concurrents. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas de disqualification. J'avais promis d'en parler. En cas de dopage. Et là, on peut se dire, bon, ben, l'athlète savait qu'il aurait pu avoir un contrôle anti-doping et tant pis pour lui. Bon. Et puis, c'est pas fair play non plus de se doper quand d'autres ne le font pas. Mais le cas de Jane Saville, c'est une autre histoire. Jane Saville, elle est australienne, c'est une spécialiste de la marche athlétique. Et c'est vraiment une discipline très particulière qui ressemble de loin à une course. Vous voyez les athlètes se dandiner. Quand ça marche, là, il y a un jeu d'épaules et de hanches. C'est très particulier. Et cette discipline va entrer au JO pour la première fois en 2000 à Sydney. Nous avons dit qu'elle est australienne. Donc, elle va concourir dans son pays, dans sa discipline de prédilection. Et la technique, c'est que... Alors, je vous lis ce que j'ai trouvé. Mais c'est vrai que ça va tellement vite parce qu'ils marchent trop vite, ces gens-là. 20 km en 2 heures, quand même. Faut le faire. On peut se poser la question où se trouve la limite entre la marche rapide et une course. Eh ben, 2 critères principaux sont retenus pour cela. Les athlètes doivent constamment garder un pied au contact du sol et doivent également avoir la jambe tendue au moment où leur pied touche le sol. Quand vous courez, des fois, vous êtes suspendu dans l'air et vous avez une flexion du genou. Ouais, bon, il suffit de courir, je vais pas le faire. Vous avez qu'à imaginer une course, vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. Eh bien non, dans la marche athlétique, il faut toujours une jambe tendue au moment où elle touche le sol. Et pour veiller à ces règles, à ce que ces règles soient respectées, des juges-arbitres sont répartis sur tout le parcours des 20 km. Lorsqu'une irrégularité est repérée, ils attribuent un carton jaune aux athlètes qui, au bout de 3 cartons jaunes, sont disqualifiés de la course avec un carton rouge. Au départ de la course, Jane Saville n'est pas parmi les favorites au titre, ni même au podium. Mais elle court chez elle et le public australien n'a Dieu que pour elle et espère la voir franchir la ligne d'arrivée en tête. Donc, en 2000 à Sydney, le départ s'effectue sur la piste du stade olympique, puis les athlètes effectuent un circuit dans la ville avant de revenir pour les 100 derniers mètres dans le stade. Alors, comme dans toutes les épreuves, beaucoup d'athlètes reçoivent des cartons jaunes et au bout d'un moment, il y en a qui sont disqualifiés, ce qui rend l'épilogue de la course haletant, incertain. On ne sait pas qui sera éventuellement disqualifié. Alors, pendant les premiers kilomètres, Jane Saville va recevoir 2 cartons jaunes. Et ça lui met une épée de Damoclès sur la tête. Elle sait que le prochain sera la disqualification. Malgré cela, elle s'applique. On a dit qu'elle n'est pas favorite. Il réussit à suivre le rythme des meilleurs concurrents et parvient même à les dépasser. À quelques kilomètres de l'arrivée, elle est en tête. On est en Australie, elle est portée par son public dans sa ville, dans laquelle elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite. Et vraiment, là, elle voit son heure de gloire arriver. À 300 mètres du stade, elle n'aurait jamais pensé, dans ses rêves les plus fous, entendre cette foule de 100 000 spectateurs dans le stade. Parce que tout le monde suit maintenant, hein. Il y a l'écran géant, il y a la radio, il y a Internet, il y a tout. Tout le monde suit la course et on a vu qu'elle est en tête. 100 000 personnes l'attendent pour l'acclamer et lui donner la reconnaissance qu'elle mérite après 15 ans de travail acharné. Loin des projecteurs. Donc, son petit footing quotidien, enfin, vous pouvez retrouver un petit peu son menu d'entraînement. C'est assez impressionnant aussi. Et donc, à 300 mètres de l'arrivée, après 2 heures de marche, elle entend. C'est ce public qui l'acclame, en quelque sorte. Les supporters sont massés devant le stade. Et elle va voir tous ses rêves brisés en une seconde. Juste avant de passer sous les tribunes pour faire son entrée sur la piste du stade olympique, à peu près à 100 mètres de l'arrivée, un juge arbitre s'approche d'elle et brandit comme un coup de poignard le carton rouge, synonyme de disqualification immédiate. Il n'y a pas « je suis presque arrivé, je finis ». Non, c'est immédiat. Et vraiment, vous pouvez retrouver ces images-là, je n'ai pas arrêté de les regarder là. Et elle est encore dans l'inertie de sa marche. On a dit que ça marche vite. Et elle vraiment éclate en sanglots devant le carton rouge. Et ça fait penser, au passage, il y en a 7 dans la Bible. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, vraiment, vous imaginez 20 kilomètres, c'est 200 segments de 100 mètres pour faire arithmétique. Elle en a fait 199. Et le dernier, elle tombe. Elle a compris, là, tout de suite, que son rêve vient de se briser et qu'elle ne peut rien y changer. Elle n'entrera pas la première dans le stade olympique de sa ville. Elle ne sera pas acclamée par ses supporters. Elle ne sera pas championne olympique. Elle n'entendra pas l'hymne de son pays sur la plus haute marche du podium. Et elle ne finira même pas la course parce qu'elle est immédiatement disqualifiée. Là, on reprend les passages qu'on a vus dans Galates 2:2 et Philippiens 2:16, d'avoir couru en vain, d'avoir travaillé en vain. Heureusement pour elle, c'est pas comme pour nous. Passer tout près de la plus grande émotion de sa vie, de la plus grande victoire de sa vie, Jeanne Saville a vu s'écouler tous ses espoirs en une fraction de seconde. Souvenez du message de Monsieur Weston, la fin viendra soudainement. Et là, en une fraction de seconde, tout est passé du vert au noir, on dira. Et bien qu'effondrée et meurtrie par cet épilogue, sa carrière ne s'arrête pas là. Grâce à un mental hors du commun, elle parviendra à repartir avant de pouvoir décrocher 4 ans plus tard à Athènes une médaille de bronze de l'épreuve. Comme je disais tout à l'heure, le bronze ne remplace pas l'or. Mais elle a quand même tenu bon. Et ça, c'est une belle leçon pour nous aussi. Tu tombes, tu te relèves. Et là, elle s'est relevée. Elle a 4 ans encore. Continue à travailler 4 ans. Je pense que beaucoup d'entre nous ont jeté l'éponge. Là, elle l'a pas fait. Et vraiment, c'est une belle athlète. Vous pouvez retrouver ses vidéos comme Wilma Wildolf, même si ça remonte à 1960. Ce sont vraiment de belles femmes, de beaux athlètes, Eric Liddell et tout ça. Il y a des photos du finish du 400 mètres de Liddell il y a 100 ans. Alors bien sûr, c'est des images d'époque, mais c'est vraiment de la culture intéressante. Donc, les athlètes, nous l'avons compris, doivent s'efforcer et travailler dur, endurer des épreuves. Et c'en est une. Ça, être disqualifié à 100 mètres de l'arrivée, avec 100 000 personnes qui vous attendent pour vous acclamer. Toujours dans 2 Timothée 2, au verset 3, Il y souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Donc, il y a du travail, il y a de la motivation, il y a des sacrifices. Il y a vraiment tout cela dans une vie chrétienne qui doit se conformer aux règles du concours. Nous devons effectivement travailler avec diligence pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons obéir aux lois du plus grand juge de tous. N'oubliez pas, dans Genèse 18, quand Abraham négociait avec Dieu le sort de Sodome et Gomorre, il a fini par lui dire, en quelque sorte, « Celui qui juge toute la terre... » Ça, c'était... Relisez ce passage-là, tout ce passage, cette négociation d'Abraham pour essayer de sauver Sodome et Gomorre. Dieu a toujours dit, ben ok, s'il y en a 5, s'il y en a 10, je crois qu'ils se sont arrêtés à 10, ben il était parti de 50 de mémoire. Il a dit non, je détruirai pas la ville. Et là, bon, celui qui juge la terre, qui juge toute la terre, alors il y a des juges. Alors, je crois que celui-là, il était celui qui lui a brandi le carton rouge, il était australien aussi. Et bon, il y a une interview de lui, j'ai pas eu le temps de l'apprécier, mais ça viendra dans un autre message certainement. Mais c'est impressionnant de voir comment cette vie d'athlète peut être reportée sur nous. Vers la fin de sa vie, Paul a utilisé une analogie avec les JO pour résumer les efforts qu'il a déployés tout au long de sa vie, et ça encore, c'est dans 2 Timothée, 2 Timothée 4, verset 7. Et ce même verbe revient, « J'ai combattu le bon combat ». Ça fait référence là à la lutte. On a parlé de l'introduction de la lutte. N'oubliez pas que M. Meredith, c'était un lutteur. Il aimait ce sport. Il parle de son ami qui s'était rompu la nuque. Et c'est là qu'il a commencé à s'interroger sur le but de la vie. Je pense que ça va être répété dans son autobiographie, mais il a beaucoup parlé de cet épisode de sa vie en tant que jeune athlète où il faisait de la lutte. Et donc là, c'est les références qui sont faites par Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Donc, il faut garder cette foi pour arriver au bout, comme il dit, comme on l'a vu tout à l'heure. Il a pu effectivement, Paul, regarder en arrière, non pas avec regret, mais pour passer sa vie en revue, en quelque sorte, avec la satisfaction d'avoir couru la course jusqu'au bout et d'avoir respecté les règles. Alors, la question pour nous, sommes-nous capables de faire autant? De regarder notre vie spirituelle avec ce sentiment. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et faisons-nous autant d'efforts que possible dans notre tentative d'obtenir le prix glorieux du royaume de Dieu. Au verset 8, toujours de 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, au verset 8, alors je reprends le verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, on en a parlé tout à l'heure, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Pas seulement une couronne de feuilles qui se fanent ou une médaille d'or qui peut ternir, il faut savoir, notez simplement que 1 Pierre 1,7 nous dit que l'or est périssable. Le mercure, j'en ai déjà parlé dans d'autres messages, attaque l'or. L'or est périssable. Mais il dit que non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. On n'est pas en compétition, mais la famille court ensemble. On peut s'entraider, on peut se soutenir. C'est ça le but de la course familiale. Mais ferons-nous partie de tout cela? Ferons-nous partie du groupe des héros conquérants qui monteront sur l'estrade avec Paul? Là, ça va être une belle estrade. Et nous allons recevoir cette récompense, comme dit Eric Liddell, le jour où Dieu distribuera les médailles. Donc, ayons ce message à l'esprit. Les JO ont commencé hier, enfin, un peu plus dans la semaine, mais ils ont été inaugurés hier. On a 2-3 semaines de manifestations sportives. Nous aurons certains la course, d'autres la perche, d'autres la natation, etc. L'occasion de voir nos épreuves favorites avec l'élite du moment. Mais ayons ce message à l'esprit quand nous regarderons les compétitions dans ces prochains jours. De penser à ce travail qui a été effectué au cours des 4 années précédentes. Et vraiment, ayons à l'esprit d'être sur l'estrade avec Paul. Puissions-nous être nombreux à recevoir cette médaille le jour où Dieu la distribuera. Je vous souhaite d'excellents JO, tant physiques que spirituels.